on va se laisser avec la suite sur Radio G. On vous souhaite une très belle soirée.
J'ai ri de ma gueule, tous ces mots qui dégueulent, ça fait une drôle de barbare en raser les murs. Au début, pas trop sûr, un moment faut y aller. Au milieu de la rue, y a plus à hésiter. Le trottoir est de marbre de l'autre côté. Le jour où j'ai failli retourner dans la tombe, le temps était aux bombes et je les ai bravés. Les gens étaient en ombre à guetter ma rechute. Nous ne mettions que des ombres devant le même but. Dans les ruelles sombres et dans les bars à putes. Au milieu des décombres et des bêtes en rute. Le jour où j'ai failli m'imaginer poète. Je n'étais moi aussi après tout qu'une bête. Mais j'ai tenté le jeu et me suis entêté. Pour en toute fin de compte ne plus rien regretter. Le jour où j'ai failli détourner mon regard, c'était presque trop tard et pourtant j'ai tenu. Je me suis accroché à cet instant ténu. Je n'ai pas regretté de m'être un jour battu. Le jour où j'ai pleuré, je n'ai pas oublié. Je m'en suis souvenu, c'était si surprenant. C'était tant incongru. Et le pire c'est qu'aujourd'hui je ne saurais même pas dire d'où ça m'était venu.
L'équipe d'Imaginaire de retour du Festival Imaginaire.
Ça tombe bien.
Mais pas que.
On va vous en parler en début d'émission. On va revenir là-dessus avec Seb et Romald. Et puis Sébastien, tu vas nous parler d'un livre-jeu humoristique, j'ai l'impression, cette fois. Je croyais que tu n'aimais pas ça, le livre-jeu humoristique.
Ah là, parce que l'humour, il passe bien. C'est la forteresse du chaudron noir de Bob Lennon.
Célèbre youtubeur, hein, surtout spécialisé dans les jeux vidéo. Et puis, en deuxième partie d'émission, l'interview de Jean-Marc Ligny. Alors Jean-Marc, il était tout de suite à une table ronde à Luco.
On y était,
on n'a pas eu le temps d'enregistrer et de vous la diffuser tout de suite. Donc on va vous passer sa rencontre avec Pierre-Marie à l'Angers Geekfest. C'était il y a quelques semaines où nous animions une bonne partie de la scène littérature. Jean-Marc était déjà venu pour une table ronde sur l'écologie aussi. C'était quoi? L'humanité est-elle un super vilain, je crois, le titre.
Oui, je crois que c'est ça.
Cette table ronde.
Pierre-Marie, on a animation de la table ronde.
Ouais, et puis donc, on l'avait interviewé sur la scène littérature quelques heures après, et donc on va s'écouter ça. Eh ben, Sébastien, premier choix musical avec une petite surprise là.
Oui. D'un tas de haillons émergeait le regard pourpre de son âme errante. C'est un petit haïku que vous retrouverez dans l'anthologie de la poésie fantastique qui paraît ce mois de mai aux éditions Malpertuis. Amis auditeurs de Radio G, vive la poésie, vive le fantastique et vive Imaginaire.
Weekend.
nice to meet you. Anyway, it's nice to meet you. Anyway, it's nice to meet you.
I was buying you those flowers. I was listening for hours. I was shutting up those doubters. Yeah, yeah. She was jealous of our relationship. She hated that we were making it. She's smiling, but she faking it. Yeah, yeah. Praying that we make it through the weekend. Winners in December, we are sinking. Hammer and a nail, and now we're leaking. Yeah, yeah, yeah. Painted on the wall, it's something freaking. She's been throwing punches like a TK. I can never go and be a sneaker. Get away, yeah.
Nice to meet you. Anyway, it's nice to meet you.
It's nice to meet you.
Anyway, it's nice to meet you.
I hope to see you.
Anyway, it's nice to meet you. Nice to meet ya. She could be a Mona Lisa. Should've seen her.
C'est Flo du Gribouillard et vous écoutez Imaginaire de 21h à 22h, les mardis pairs sur Radio G.
J'ai même plus besoin de le dire parce que j'ai des jingles qu'ils font maintenant depuis le salon Imaginaire ce week-end.
Parfait.
Ah ouais, tiens, Romu, tu pourrais nous faire un jingle à partir de ça.
Ouais.
Alors, ce salon?
Eh bien, c'est un salon. Déjà, ça fait plaisir de recommencer le salon, puisque, comme peut-être que tous les auditeurs le savent, il y a des petits problèmes au niveau de les subventions culturelles sur la région Pays de la Loire.
Ouais, et, sur toute la France, je crois maintenant.
Alors, ouais, mais ça a vraiment commencé en Pays de la Loire et de manière vraiment.
C'est la mode.
Vraiment dramatique. Et le salon a eu lieu. Parce que tous les autres partenaires nous ont continué à nous soutenir. Donc on a eu un salon avec une ambiance de feu. J'ai trouvé que tout le monde était content de se revoir, tout le monde était ravi, les visiteurs, les exposants et nous-mêmes on a été ravis. Moi je pense que c'était un très bon salon qualitativement parlant, vraiment. On a fait aussi des tables rondes. On a réussi à maintenir le nombre de tables rondes qu'on voulait maintenir avec des intervenants qu'on connaissait pas forcément. Puisqu'on a eu beaucoup de primo-écrivains. Enfin, j'avais pas trop étudié l'ensemble du programme, puisque je suis plus du côté de l'organisation. Mais c'était vraiment passionnant.
On a enregistré les 5 tables rondes. Je pense pas qu'on va les diffuser dans cette émission, parce qu'elles durent plutôt 1 heure. Et elles iront plutôt sur notre chaîne YouTube. Donc, surveillez nos réseaux. Et puis, à la remise de prix, à Heyerdahl.
Ouais, c'est le climax émotionnel parce que effectivement c'était Yael Heyerdahl qui est un écrivain de science-fiction et de polar est décédé il y a 10 ans, en fait, tout exactement, et sa compagne est venue pour pouvoir remettre le prix Heyerdahl, donc c'était à Mireille Rivalant qui est éditrice de la Talente depuis 1989, depuis que la Talente fait de l'édition. Et tout le monde connaissait Yael, hein, c'est des gens qui l'ont côtoyé pendant des années et des années. Il y avait aussi l'ancien récipiendaire de l'année dernière qui est Jean-Claude Duniac, dont Mireille est l'éditrice. Donc tout le monde se connaissait, c'était beaucoup d'émotions et de bisous et une petite larme écrasée par-ci par-là.
Alors c'est vrai que ça a été filmé aussi par Alan de Fantastinette, donc peut-être qu'on retrouvera ça plus sur sa chaîne YouTube. Sébastien?
Eh bah, ben moi,
tu nous as choisi Nice to Meet You déjà d'Imagine Dragons.
Ah oui, bah Imagine Nice to Meet You, en fait c'est un clin d'œil à toutes ces belles rencontres qu'on fait au salon Imaginaire, dont une en particulier qui se reconnaîtra. Et j'ai aussi un fort attachement au fait que le salon Romuald, invite des auto-édités. Et j'ai eu plaisir de discuter avec certains et qui étaient vraiment enthousiastes. Ils se sentaient comme à la maison. Et je trouve que c'est bien de les voir un peu se mélanger à des auteurs avec un plus grand bagage, même à côté de maisons d'édition, parce que ça leur donne confiance. Mmh. Et ils rivalisent même d'ingéniosité, vraiment, Romain, pour donc amener les personnes qui viennent les voir à leur stand à lire leurs ouvrages. Par exemple, on a Chris Wood qui était avec sa compagne et je lui dis bon bah voilà.
Il venait d'Orléans quelque chose.
Il venait
comme ça,
de Bourges.
Pas juste à côté.
Bourges. Il était très content, assez timide, mais en fait je lui dis bah voilà parlez-moi un peu de votre projet. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'est que des fois on hésite à prendre un gros bouquin.
Oui, c'est vrai.
En se disant bon, il y en a tellement, je lui dis écoutez, de la fantaisie aujourd'hui voilà, c'est vrai, comment vous vous démarquez? Il m'a dit déjà vous avez la possibilité de m'acheter un spin-off, donc de faire une première entrée dans mon univers, et c'est pas un grand risque parce que c'est une nouvelle.
Ouais, on dirait un fascicule en fait, ce que t'as en main là, c'est un format un petit peu intermédiaire entre le poche et puis le classique. Voilà. C'est pas épais. Tu peux rappeler le titre?
Alors, les cycles d'Ariane, 7. Et là, ça permet justement de voir si l'univers nous plaît.
Et l'écriture aussi.
Et
l'écriture aussi.
L'écriture aussi, à partir de là, de franchir le pas. Ça, j'ai beaucoup aimé l'idée. Tout comme il y avait un autre auteur qui invitait donc les gens à se rapprocher de sa table, à lancer des dés pour pouvoir gagner des abonnements sur sa page Insta et découvrir aussi tout ou partie, on va dire, de ses ouvrages. On a eu aussi Aura, donc qui venait
qu'on a eu à l'antenne, voilà, un petit peu avant,
on a eu à l'antenne,
qui sont venus un peu en famille, hein, ils sont venus nombreux, les Suisses
en team, ouais, ils étaient 5 en tout, ouais. Suisses et France, hein.
D'accord.
Et là aussi, moi, j'ai été époustouflé parce qu'ils venaient vraiment en équipe, et ça montrait aussi que les auto-édités, eh bien, en conjuguant vraiment tout leur talent, eh bien, ils arrivent à faire des choses vraiment formidables. Donc c'est vraiment un salon friendly, pour reprendre un mot de Manon.
Ouais.
Et j'ai eu plaisir, Romuald et Romain, et chers auditeurs, de travailler avec Jean-Luc pour vous faire des présentations de chacun des stands jusqu'à la table du Renard qui lit, notre partenaire libraire de cette année.
De Chalonne-sur-Loire.
De Chalonne-sur-Loire, pour ensuite les mettre sur nos différents réseaux Insta, YouTube. Ainsi, pour ceux qui auraient encore hésité à ne pas venir au salon, eh bien, ils auront une présentation d'une à deux minutes de chacun des stands. Ça permet d'illustrer avec les auteurs, les illustrateurs qui parlent.
Et puis, on avait aussi des stands qui étaient là le samedi et pas le dimanche, et inversement. Donc, c'est possible qu'il y ait des gens qui rataient des trucs, en fait, même s'ils sont venus.
Donc, ça sera à disposition quand, sur le site ou sur les réseaux?
Eh bien, ce sera tout au long de l'année, jusqu'au prochain salon, donc en 2026.
D'accord.
Ok. Bon, eh ben, on va passer à ta chronique donc de la forteresse du Chaudron Noir.
Voilà, avec une petite musique.
Grosse intro, hein, ouais, en fait. Il nous explique tout dans son morceau, donc je sais pas.
Sans spoiler.
Oyez, oyez, approchez, approchez, et venez entendre l'histoire incroyable d'un enfant et de son puissant ami parti à l'aventure dans les terres des Rennais. Vous ne connaissez pas cette légende, ce mythe? Eh bien, asseyez-vous et laissez-moi vous conter l'histoire incroyable de Billy et du Pirot Barbare.
Au-delà des terres et des frontières, Va y conquérir la forteresse du Chaudron Noir pour obtenir richesse et gloire. Débrouillard
chasse et gloire, débrouillard, paysan, guerrier ou prudent en amant. La forteresse du Chaudron Noir abrite en elle l'ancien pouvoir, la légende de l'histoire de Billy et du Pirou Barbe.
De la fière crâne l'or, forgé par l'acier. Existe un homme puissant et musclé. Sarkane est son dieu. Par l'honneur et le feu. Avec sa hache, il lutte sans relâche.
Le champ de bataille est son destin.
Il conduit sur son chemin.
Pour tourner la page finale sous le regard des dieux immortels. Et tu vis, Vétère. Le combat sera perpétuel de sang et de fer.
Un seul enfant entre son chemin.
Le monde est entre ses mains.
Forge ton destin.
La forteresse du Chaudron Noir attend que tu écrives l'histoire. Débrouillard, paysan, guerrier ou prudent, sois vaillant.
La forteresse du Chaudron Noir aux côtés du pire au barbare. Prends ta plume, ton grimoire et grave les récits de tes victoires.
Car nul homme ne peut masquer l'espoir.
Alors Bob Lennon, c'était un célèbre, je sais pas comment ça, GameStuber, quelque chose comme ça, quelqu'un qui, oui, s'est, qui a été révélé en jouant à Minecraft en fait.
Oui, il est connu
sur les réseaux. Ouais. Il était aussi sur Game One, je crois. Mais là, au bout de quelques années de carrière, il décide de faire un livre-jeu.
Oui, et d'ailleurs, il y en a un troisième qui paraîtrait, parce qu'il y en a eu deux pour le moment. Donc moi je m'attendais pas à aimer en fait, j'y allais à reculons et en fait c'est un ami qu'on a en commun, Romain Emeric alias Ems sur Twitch, qui s'est lancé dans l'aventure de la forteresse du Chaudron Noir depuis quelques lives, donc c'est tous les dimanches après-midi.
Ah, en même temps, ce livre-jeu, c'est le record de full lancement sur KissKissBankBank. 2 millions d'euros à chaque fois qu'il y a... enfin là il en a fait 2.
Non, trois, il y en a un troisième qui paraît. Ouais.
Le gars fait toujours 2 millions d'euros pour. Voilà. Et il est parti sur 7, apparemment, d'après ce qu'il raconte. Ce sera une. Comment t'appelles ça? Heptalogie, non?
Oula. Oui, ça fait ça. Là, c'est des mots compliqués à passer une certaine heure, là. Mais déjà, le premier, ça peut se lire indépendamment, si je comprends bien. Il est quand même très copieux, ce qui fait quand même 608 paragraphes. Et j'ai écouté des retours de lecture donc, de YouTubeurs. Et quelqu'un a fait vraiment la lecture avec un chrono, et il m'a dit qu'il l'a fait en, il l'a dit donc, 7 heures de lecture pour 229 paragraphes.
Ça me paraît beaucoup.
Et bah, en fait, Romuald, il y a des paragraphes qui sont vraiment très 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 longs, sur plusieurs pages. Et en fait, Bob Lennon a été aussi aidé par David Kuhn. Au moins, lui, il le dit. Puisque t'as quand même des youtubeurs qui disent j'ai écrit un bouquin.
Qui font tout, mais en fait. Bon,
et puis en fait, bah, ils font rien, en fait. Ouais. C'est en fait un nègre qui écrit à leur place. Mm-hmm. Au moins, lui, il le dit. Et on sent quand même son amour vraiment des livres dont vous êtes le héros, dont Loup solitaire.
Et alors, d'ailleurs, le personnage qui reprend là, comment il s'appelle déjà?
Alors, c'est Pierrot Barbare et Billy. Nous, on incarne Billy, un paysan qui vient de Plante Citrouille et qui va découvrir, en fait, le monde, tout comme le lecteur, donc, d'Erener.
Et Pierrot Barbare, en fait, c'est un personnage que lui, c'était son avatar quand il se filmait en train de jouer à Skyrim, voilà.
Exactement. Et alors, moi, j'aime particulièrement, c'est un peu comme pour Aura, c'est divisé en actes. Donc, ça permet d'avoir aussi comme des checkpoints. Et Romuald, en fait, ça me rappelle aussi le jeu de rôle, parce qu'à un moment donné, pour les combats, eh bien, même si j'ai pas trop compris au niveau des règles, ça s'assimile bien. En fait, on a des phases d'attaque avec une table des coups, ce que tu peux voir.
Table des situations. Ah oui, donc c'est comme un jeu, enfin c'est plus avancé qu'un jeu classique.
Voilà, ce qu'on peut être en désavantage ou en avantage, avantage léger ou lourd.
Ah oui.
Donc ça reprend un peu le système de la table des coups portée de Loup solitaire. Mais je trouve que là, il y a une petite patte jeu de rôle. Et je voudrais savoir si tu confirmes ce que je pense. Parce qu'on a une phase d'attaque. On a la possibilité également d'avoir une phase d'esquive.
Oui, dans certains jeux,
Il y a plein de jeux de rôle, jeux de plateau, on fait ça. Mais c'est, de toute façon, les livres-jeux, ce sont des portes d'entrée vers les jeux de rôle.
Même dans les défis fantastiques, on pouvait s'échapper.
Déjà les thèmes, les univers.
Tenter sa chance d'échapper au combat, non?
Alors, bien souvent, on combat dans les défis fantastiques, mais dans la forteresse du Chaudron Noir, c'est bien que tu en parles. Mon tout premier combat, en fait, que j'aurais pu faire, c'était contre trois orques, bleus, pas verts. Bon, écoute. Mais on a la possibilité de fuir ou de ruser. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est dans une auberge avec le Pierrot Barbare, Pierrot, bah, pyromane. Sauf que moi, à la différence de Hems Romain, j'ai réussi à ne pas faire flamber l'auberge. C'est-à-dire que le combat qu'on va mener, il peut avoir des conséquences sur l'environnement. Et ça, j'ai vraiment adoré. Et on a aussi différentes classes de Billy. Moi, je suis un Billy débrouillard. J'aurais pu être prudent, pas comme dans la chanson, guerrier ou paysan. Et à partir de là, certaines fois, on a des paragraphes qui nous sont vraiment, comment dire...
Dédiés,
que pour la classe qu'on joue. Et on a également donc des personnages qui vont devoir suivre un peu leur caractère pour faire des choix qui sont en adéquation, ou alors ils partent un peu défavorisés face, par exemple, à des situations épineuses. Et on sent vraiment qu'il y a un équilibrage dans les règles, vraiment. J'ai trouvé que c'était très intéressant aussi d'avoir un équipement qui détermine la classe de notre personnage. Et puis, ça se lit très bien. L'humour n'est ni trop lourd, ni trop léger. C'est le juste milieu, comme il faut. Moi qui suis pas fan des quêtes du Graal, là par contre, vraiment, je me délecte. Et il y a vraiment tout un univers, dont le panthéon des dieux, des déesses, mais qui est vraiment poussé. D'accord. Et là, je reviens à ce que tu dis, qu'on a l'impression de rentrer comme dans un jeu de rôle, avec un univers vraiment très développé, un peu comme Loup solitaire, mais là, en un seul et unique bouquin. Et chaque acte propose une forme de jeu différente aussi.
Ok.
Dès la fin de l'acte 1, par exemple, Romain, on peut bifurquer en allant à la cathédrale pêcher des informations sur pourquoi le sang du Pierrot Barbare, Virilus, un grand méchant, le veut. En fait, c'est le sang des anciens. Donc, il a un sang spécial, le Pierrot Barbare. Et ou alors, on va à la cathédrale ou à la tour des mages. Donc, on a un acte 2 qui diffère donc selon la voie qu'on va prendre.
Donc grosse rejouabilité de ce livre-jeu, en fait.
Très grosse rejouabilité. Si je me fie à ce que disait le youtubeur, 7 heures de lecture pour 229 paragraphes, tu imagines encore le nombre d'heures de lecture qui t'attend derrière. Et on a des succès à débloquer. Et si vraiment on est un fanatique de débloquer tous les succès, on a même la max. Vous avez débloqué tous les autres succès. Vous êtes le véritable Pierrot Billy. Mais là, vraiment, là, c'est pour ceux qui poncent le livre de long en large et en travers.
Bon, après, je crois qu'il les sort à peu près à un rythme, un livre tous les deux ans, quelque chose comme ça. Donc, ça laisse le temps quand même de le poncer.
Voilà, de le poncer. Et peut-être que le troisième figurerait au prix du livre-jeu. Mm-hmm. Donc, on est emballé. Et le premier, c'est vraiment un grand coup de cœur, tant pour Aymeric que pour moi. Et déjà, livrejeux.fr en avait parlé en plus grand bien.
Je suis pas hyper fan de la couve, moi, que je trouve qu'il fait un petit peu satirique. Par contre, à l'intérieur, j'aime bien le côté old school, hein, des illustrations en noir et blanc, avec de jolis dessins pleines pages. Quand même assez roots hein, dans les visuels, il a pas essayé de
faire c'est sa sœur qui fait les illustrations.
Ah d'accord, ok. Et puis les petits, je sais pas comment ça s'appelle ça, des culs de poule ou des trucs comme ça, des espèces de petits motifs qu'on retrouve un petit peu. Ah ouais, d'accord, qu'on retrouve un petit peu partout, qui est un peu c'est un grand classique. Des livres dont vous êtes le héros.
Et là, je voudrais 80, quoi. Faire un petit pas de côté, donc pour parler de Manon, donc qui faisait une conférence des plus passionnantes, Romuald, à laquelle tu assistais d'ailleurs ce soir, et qui donc est en phase donc de sortir prochainement son premier livre-jeu, La bouche de l'Amazone, un livre érotique avec le H
d'aventure quand même. Ah oui, d'accord. Ah oui, ok.
Et avec Jean-Luc, on a eu le plaisir d'avoir un teasing donc au stand.
Ok. Donc, au stand de Rackham Leroux.
Au stand de Rackham Leroux,
qui sera l'illustrateur de ce livre. Futur illustrateur de ce livre.
Donc vous aurez comme ça une présentation.
À mettre en toutes les mains, d'après ce qu'on a compris, c'est vraiment pour les adultes.
Alors oui, mais en même temps, il y a la voix du savoir. Moi, qui suis un garçon sage, naturellement, que j'éviterai toutes les scènes coquines pour partir dans la voie du savoir. Donc il y a vraiment encore une belle découverte à faire prochainement sur les ondes d'Imaginaire.
Eh ben, on va s'écouter tout de suite l'interview de Jean-Marc Ligny qu'on a fait à l'Angers Geek Fest. Musical, une petite pause musicale, on commence par Faune. C'était le groupe dont il avait le t-shirt ce jour-là à l'AGF. On a discuté un petit peu parce que c'est un groupe de pagan folk allemand qu'on avait déjà passé dans cette émission. Il vient de sortir une reprise de Nick Drake il y a 3 mois, donc on commence l'interview par ça.
us into the hands of God.
Bonjour à tous. C'est un vrai plaisir de vous retrouver et d'être en compagnie de Jean-Marc Ligny. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Jean-Marc Ligny, mais Jean-Marc est un auteur de science-fiction, auteur d'anticipation écologique, avec un magnifique terme qu'il ne supporte pas, qui est collapsologue. C'est aussi un des plus vieux auteurs de science-fiction anticipation écologique français encore en vie. Et ça, c'est un exploit. Tu as d'ailleurs reçu le prix Heyerdahl en 2020 pour tout le travail que tu avais fait pour tous tes écrits de science-fiction. Mais avant de parler anticipation écologique, comment est-ce que tu es arrivé à l'écriture ?
À force de lire de la science-fiction, hein, je pense. Pas parce que je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'en lis depuis l'âge de 8 ans. Hein. Et j'en ai lu énormément, du bon, du moins bon, du carrément mauvais. Et puis, à l'adolescence, en fait, j'avais deux envies, enfin deux passions en fait, dans ma vie. L'une, c'était la musique, le rock, et l'autre, c'était la SF. Donc j'ai un peu essayé le rock, je dois dire. Je me suis acheté du matos, guitare électrique, en plus, machin, patin, tout ça. Ça n'a pas donné grand-chose parce que j'étais pas très doué en musique quand même. Hein, le matériel ne remplace pas le talent, même si je voulais avoir la même guitare que David Gilmour de Pink Floyd, que j'ai eu d'ailleurs. Mais bon, ça n'a pas marché, donc je me suis lancé dans l'écriture un peu comme plan B au départ. Et en fait, c'est ce qui a marché parce que j'ai écrit mon tout premier texte en fait, de SF, je devais avoir 20 ans. Et mon premier roman est paru, j'en avais 23, donc ça n'a pas mis trop de temps, en fait, finalement. Et puis, mon premier roman étant paru directement chez De Noël, pour moi, ma carrière était lancée, c'est ce que j'allais faire de toute ma vie.
Et là, nous sommes dans les années donc, 80.
Ouais, fin des années 70.
Pendant 20 ans, donc, tu écris de la science-fiction, notamment dans la collection Fleuve Noir Anticipation.
Entre autres. De Noël, Fleuve Noir essentiellement.
Et puis on arrive dans les années 2000 avec un tournant dans ta carrière littéraire.
Carrément, ouais. Carrément, parce que tout d'un coup, au tournant du siècle, en fait, j'ai assez brutalement pris conscience de l'inéluctabilité du changement climatique. Bon, j'en avais déjà entendu parler avant, mais ça restait encore au stade un peu de l'hypothèse, quoi, on va dire. Ou du moins d'un avenir assez lointain. Et puis tout à coup est paru le je ne sais plus combien tième rapport du GIEC à ce moment-là. Je suis tombé dessus, je l'ai lu et je me suis dit c'est inévitable. Ça va nous tomber dessus quoi qu'on fasse, quoi qu'il arrive, même si on changeait de société tout à coup d'une façon radicale, de toute façon le processus s'est enclenché. Donc je me suis dit, en tant qu'auteur de science-fiction, je ne pouvais pas passer à côté. Je ne pouvais pas parler d'avenir sans parler du changement climatique. Donc, j'ai saisi le sujet à bras-le-corps, en fait. Et j'ai étudié beaucoup la question. Et puis, j'ai proposé un scénario à la Talente, qu'ils l'ont accepté. Et j'ai mis à peu près 5 ans, études comprises, à pondre donc, ce pavé-là qui est à côté.
Est-ce que tu peux nous rappeler le pitch d'AquaTM et pourquoi est-ce que tu l'avais envisagé ?
Le pitch d'AquaTM, c'est la guerre pour l'eau, en fait. Dans un contexte de sécheresse extrême d'un côté, d'inondation extrême de l'autre, c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. Hein, mais là, c'était en 2001, tu vois, 2001-2002, que je préparais ce bouquin. Et à l'époque, vivant en Bretagne, j'avais envie de traiter de l'eau, parce que la Bretagne, c'est une région où il pleut pas mal, quand même, faut dire. Et ça me paraissait pas évident à faire comprendre aux gens que malgré toute cette flotte qui tombait du ciel, on pouvait manquer d'eau potable. Parce qu'en fait, il n'y a que 1% de l'eau douce sur la planète qu'on peut exploiter, en fait, d'une façon... en eau potable. Et donc j'avais envie de traiter de ça. Donc l'histoire, la lutte entre un petit pays d'Afrique, le Burkina Faso, pour ne pas le nommer, qui est en train de tourner au désert, où tout le monde meurt de soif et de faim, et où
qu'on découvre en fait une nappe phréatique dans son sous-sol profond par l'intermédiaire d'un satellite qui appartient à une compagnie privée, une grosse compagnie américaine. Et laquelle compagnie américaine, vu que c'est son satellite qui a découvert cette nappe, prétend que cette nappe lui appartient et veut l'exploiter. Et donc, voilà, c'est la lutte entre une big grosse entreprise américaine et un des pays les plus pauvres du monde, vu par les yeux d'un couple de convoyeurs qui est chargé de convoyer du matériel de forage donc au Burkina Faso et qui vont se retrouver pris dans cette lutte sans pitié parce que le consortium américain n'a plus devant rien, y compris un coup d'État pour essayer de s'approprier cette nappe.
Ce qui était une anticipation écologique dans les années 2001-2000, c'est devenu une réalité dans les années 2020, avec notamment quelques pays qui ont toute leur eau qui est privatisée, alors pas forcément par les compagnies américaines, mais il n'y a plus d'accès à l'eau potable. Et puis, plus proche de nous, en Auvergne, où il n'y a plus les nappes phréatiques qui sont en libre service.
Bah exactement. Bon, il y a sur bien des pays, tu as la mainmise de Nestlé qui s'approprie les ressources au détriment des populations locales. Bon, en France, tu as des grosses boîtes comme Evian, Vital et tout qui pompent aussi allègrement dans les nappes phréatiques. Et puis aussi, ce que j'ai appris au moment où le roman est paru, je crois que c'était en 2006, qu'un satellite américain, qui appartenait à la NASA, hein, je pense, avait découvert une nappe phréatique profonde au Darfour, au Soudan. Et donc on avait pensé à l'époque que ça allait apaiser les tensions, la guerre sempiternelle que se livrent le Soudan du Sud et le Soudan du Nord. Et en fait ça a fait qu'exacerber les choses parce qu'ils y ont tous deux cherché à s'approprier cette nappe et ça a été un gros bordel. Donc là ça arrivait au moment où le bouquin sortait, donc je me suis dit super, je suis pas loin de la vérité, en même temps que je me disais c'est affreux, je suis pas loin de la vérité.
Ouais. Cette façon d'envisager la réalité par rapport à tes livres qui, au final, la réalité rattrape la science-fiction, comme le dit l'adage, c'est plus que de la science-fiction, tu l'as eu aussi pour tes bouquins Alliance et Exode. Exode en premier, comment est-ce que tu es arrivé à ce livre-là? On parle ici de déplacement de population.
Bah écoute, quand AquaTM est paru, en fait, moi au début je pensais en rester là, sur le changement climatique. À l'époque, le terme de cli-fi, climat-fiction n'avait pas été inventé, c'était pas encore un genre à part entière. Et donc je me disais, j'ai pondu un gros pavé là sur le sujet, je vais passer à autre chose. Mais bon, pendant ce temps-là, le dérèglement climatique continuait. Hein. On avait de plus en plus d'infos, on en savait de plus en plus. On se rendait de plus en plus compte que le principal responsable, c'était quand même le système capitaliste ultra-libéral mondial qui pillait la planète sans vergogne et que ça allait générer forcément des déplacements de population, des réfugiés climatiques, etc. Et que même là, en 2007-2008, on commençait à parler aussi d'effondrement justement du système, d'effondrement possible du système, une fois toutes les ressources épuisées, etc. Donc dans ma tête, j'ai additionné 2+2, hein, effondrement du système, migration de population, pays invivable, fuite vers le nord, et ça a donné Exode où j'imagine 6 personnages en quête d'un endroit meilleur où vivre, ou simplement d'un endroit où vivre en fait. Et Exode reflétait complètement l'éco-anxiété que je ressentais à l'époque.
Alors là, Exode, c'est un livre un peu particulier puisqu'il ne s'agit pas d'un roman mais d'une sorte de fix-up. 6 histoires indépendantes qui finissent par se rejoindre à la fin et qui suivent le même fil rouge narratif. Hein.
C'est ça, tout à fait, ouais.
Donc les 6 histoires pourraient se lire indépendamment.
Oui, éventuellement, on pourrait découper, on pourrait en faire une mini-série en 6 épisodes, si on voulait.
Pourquoi avoir choisi ce principe-là d'avoir des histoires qui sont séparées les unes des autres et qui finissent par se rejoindre?
Parce que j'avais envie de traiter de réactions différentes face à la catastrophe. En fait, avant d'écrire Exode, je m'étais entretenu avec une psychologue, spécialiste, psychologue comportementaliste, donc spécialiste du comportement,
est néanmoins spécialiste des réactions en cas de catastrophe. Voilà, genre méga inondation, méga incendie, enfin ce qu'on vit au quotidien maintenant, comment les gens réagissent face à ça. Et donc elle m'avait listé une douzaine de comportements types, on va dire, en précisant bien que rien n'était tout noir ou tout blanc, hein, que les choses se mélangeaient et évoluaient dans le temps, et puis en précisant aussi que les catastrophes en question n'étaient pas irréversibles. Il y a toujours l'espoir que les choses s'arrangent par la suite. Donc, fort de ces archétypes de comportement face à la catastrophe, j'ai imaginé donc six personnages qui réagissent différemment face à la catastrophe qu'ils vivent au quotidien, qui est leur complet déracinement et leur fuite de zone où ils ne peuvent plus vivre, quoi.
Là, en plus d'avoir six personnages différents et six réactions différentes, tu parles de milieux écosystémiques différents.
J'ai une bigote espagnole qui croit à la venue des anges, qui seraient en fait des extraterrestres. J'ai une italienne dont le fils est malade et qui cherche désespérément un médecin pour le soigner. J'ai deux pêcheurs, anciens pêcheurs des îles Lofoten en Norvège, qui voient leurs îles envahies par les migrants qui vont plutôt descendre dans le sud. Un généticien qui vit dans une enclave en Suisse, à Davos, et qui travaille sur la prolongation de la vie humaine, comme si c'était vraiment d'actualité à l'époque. Et puis un bout de feu. Un bout de feu, c'est un nihiliste qui se défonce à la Rabia Negra, qui est une espèce de drogue de l'enfer, qui les rend totalement insensibles et qui précipite en fait la fin de l'humanité en mettant feu partout d'où leur nom de bout de feu. Et voilà, je crois que j'en ai pas oublié.
Le travail que tu as fait sur ce recherche des comportements types en cas d'événements de cataclysme.
Ah si, la sixième, celle Mélanie dans sa ferme en Auvergne, qui recueille et qui soigne les derniers animaux sauvages qui vivent aux alentours. La sixième, voilà. Pardon.
Ton travail que tu as fait sur les comportements types en cas d'événements, de phénomènes cataclysmiques, c'est un travail qui a aussi été fait en 2020 à l'occasion de la pandémie du Covid, où on s'était appuyé notamment sur les comportements dans les jeux vidéo, mais réels, pour savoir comment est-ce que la population réagissait vis-à-vis du virus et comment est-ce qu'elle le transmettait, consciemment ou non, volontairement ou non. Et ce travail de comportementaliste, c'est quelque chose qui s'est de plus en plus répandu, de la même manière que ce dont tu parles, la littérature de l'effondrement. On appelle ça, c'est un nom, c'est la collapsologie, qui est la science de l'effondrement, justement.
Ouais.
Toi, tu as travaillé avec pas mal d'opérateurs étatiques pour avoir accès à des bases documentaires de manière à donner une crédibilité et une base solide à tes romans. Est-ce que avec quel organisme est-ce que tu as travaillé ? ADEME, ONP, CEREMA ?
Pas avec beaucoup, en fait. C'est plutôt pour Alliance, où j'ai bénéficié d'un séminaire impromptu de presque une journée, en fait une grosse demi-journée, on va dire, matinée et partie de l'après-midi, avec les scientifiques du LSCE, donc laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, où travaille Valérie Masson-Delmotte, qui était à l'époque présidente de la branche française du GIEC, et que j'avais rencontré au Festival Utopia à Nantes. J'avais même débattu avec elle et tout, donc voilà. Et au moment d'élaborer le scénario de Semences et d'Alliance, là, pour le coup, j'avais aucune documentation. Autant je roulais sous la doc pour tout ce qui est avenir proche, comment le monde peut tourner dans les 20-30 prochaines années, autant même juste certains scientifiques se risquent à faire des pronostics jusqu'à la fin du siècle, on va dire, mais au-delà, personne s'y risque parce que les données sont trop incertaines. Ceci dit, ça n'empêche pas les scientifiques d'avoir de l'imagination. Et donc, j'avais demandé à Valérie, j'avais envoyé mon synopsis de ce roman, puis j'avais demandé à elle, qui est spécialiste des paléoclimats, donc des climats passés de la Terre, si elle trouvait pertinent ce que j'imaginais pendant trois siècles. Et voilà, qu'elle m'indique ce qui pouvait convenir ou pas convenir, ce qui était du pur délire ou ce qui pouvait éventuellement être possible. Donc elle avait lu ça, elle m'avait fait deux, trois notes, et elle m'avait dit plutôt que de corriger ton synopsis, je vais te faire rencontrer mes collègues qui sont tous spécialistes de quelque chose et qui sauront mieux t'en parler que moi. Et donc elle a organisé comme ça au Dévoté un petit séminaire avec ses collègues du LSCE. Bon, moi je pensais qu'ils allaient venir à 3-4 parce que c'est des scientifiques, ils sont tous très débordés. Hein. Et puis qu'on allait discuter une demi-heure et puis voilà. Ben non, ils sont venus à 20 quand même. Et ça a duré toute la matinée. On a continué à la cantine à midi et puis ça s'est terminé dans l'après-midi. Où là, bon, il fallait vraiment qu'ils retournent au boulot. Mais ils étaient tous ravis d'imaginer comment pourrait être la Terre dans 3 siècles. Pour une fois, je leur demandais pas des statistiques, des chiffres, des courbes, des graphiques, de la prospective étayée, des preuves. Je leur disais juste, lâchez-vous, selon vous. Alors j'avais un spécialiste de la circulation des océans, de l'atmosphère, des volcans, de l'agrobiologie, d'un tas de domaines, quoi, tous les domaines qu'il y a au LSCE. Et j'avais l'impression que c'était la première fois qu'ils se réunissaient pour discuter entre eux, en plus, tu vois. C'était assez hallucinant. Et donc ça a été un moment de grâce pour moi, quoi. Moi, je me contentais de les écouter, puis de noter frénétiquement tout ce qu'ils disaient. Bon, après, j'ai fait le tri, hein, ce qui était intéressant pour mon histoire ou pas, mais voilà. Donc c'est la seule institution avec qui j'ai collaboré d'une certaine façon. Après, ceci dit, maintenant en tant qu'auteur des SF, on est pas mal sollicité. Moi j'ai été par l'initiative de défense stratégique de l'armée,
l'IDF. C'est pas Alerte Rouge, c'est
la Rétine, exactement. Non, c'était bien avant, c'était en 2004. C'est ce qui a peut-être conduit à l'arrêt de team maintenant, mais ça fait depuis 2000, au moins 2004 qu'ils réfléchissent à l'avenir et au conflit futur au sein de l'armée et qu'ils m'avaient déjà sollicité à l'époque en 2004. J'ai bossé pour la Poste, aussi sur les transports du futur. J'ai bossé pour diverses institutions et la dernière en date, d'ailleurs c'était la semaine dernière, c'est l'Université de Lille pour imaginer le futur dans les Hauts-de-France en 2050 et créer une green team à l'image de la red team qui réfléchit sur les problèmes écologiques, climatiques, biodiversité, etc. Donc dans les Hauts-de-France parce que c'est l'Université de Lille qui paye. Mais bon, ça peut être partout sur la planète.
On revient un petit peu sur Alliance. Du coup, tu as ce rendez-vous avec toutes ces têtes pensantes, scientifiques qui te donnent plein de données et tu nous sors Alliance.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous repitcher un petit peu?
Alors, il y a deux bouquins en fait. Il y a Semence et Alliance qui sont plus ou moins indépendants, c'est-à-dire qu'on peut lire l'un ou l'autre dans l'ordre ou dans le désordre. Et en fait, dans Semence, c'est deux personnages, ça se passe donc dans trois siècles, deux personnages d'une tribu cavernicole qui tombent sur un autre personnage qui vient mourir, qui a traversé le désert, qui vient mourir quasi à leurs pieds, quoi, et qui porte un foulard sur lequel est peint, en fait c'est une peinture japonaise, tu vois, c'est le Fujiyama avec la sempiternelle branche de prunier devant, etc. Eux pensent que... Bon, ils comprennent pas ce qu'il a dit, le gars, parce qu'ils parlent pas la même langue. Eux, ils pensent qu'il vient de là. Et donc, ils vont essayer de reconstituer son parcours, son itinéraire, qui vont les mener jusqu'au Groenland. Ça, c'est Semence. Et dans Alliance... Donc dans Semence, à un moment, vers le dernier tiers du bouquin, ils tombent sur quelqu'un qui possède un avion solaire. Bon, ils se sont rendus compte entre-temps, dans leur périple, qu'ils ne sont pas les derniers habitants sur Terre. Ils ont rencontré d'autres tribus, d'autres nomades, d'autres gens. Et ils tombent sur ce gars avec cet avion solaire qui, donc, va les emmener au Groenland, qui n'est pas du tout donc, l'endroit qu'ils pensaient trouver, tu vois. Et dans Alliance, donc, je raconte l'histoire du gars qui a l'avion solaire, qui donc vient de Groenland, où a été établie une société, une prémisse de civilisation qui tente de se rebâtir là. Et puis, pareil, ils sont dans le même état d'esprit, ils cherchent d'autres survivants sur Terre, quoi. Ils pensent peut-être pas être les derniers survivants, mais il n'y a plus de contact avec personne. Donc, comme ils ont réussi à construire un avion solaire, ils vont en profiter pour aller explorer d'autres contrées et donc rencontrer les héros du premier roman. Donc on peut lire l'un ou l'autre, ou dans n'importe quel sens, ça a peu d'importance. C'est une suite sans être une suite. Là, c'est deux volets analytiques, on va dire.
Là, donc, nous sommes en 2020, tu as sorti 4 romans, 3 présentés, qui sont sur de l'alerte climatique, de l'alerte au changement climatique. Et puis, cette année, 2025, tu nous sors Eco Warrior, et on n'est plus sur de l'alerte écologique.
Non. Là, on est carrément dans la lutte au pied levé. Quoi, c'est pas de la fiction, d'ailleurs, c'est un pur thriller. C'est un pur thriller qui se passe aujourd'hui, maintenant. Et qui raconte en fait la lutte que vont mener un groupe d'éco-guerriers, éco-résistants ou éco-terroristes, ça dépend de quel côté du bâton on se place, on va dire, qui va les mener dans une lutte de plus en plus radicale et violente à l'issue que je dévoilerai pas, parce que sinon je vais spoiler. Mais bon, on se doute que ça ne va pas être facile. Et en fait, le point de départ de cette lutte, c'est que... c'est l'alliance entre des écolos radicaux, donc militants, déjà au sein de groupements et tout ça, et de caïds de banlieue, qui ont une conscience écologique extrêmement limitée, parce qu'ils sont déjà en mode survie depuis longtemps. Et ce qui va les rapprocher, c'est que le père de Malik, le héros, meurt dans l'explosion d'une usine de plastique où il travaillait, donc qui pollue gravement toute la région. Et la militante écolo qui s'appelle Fiora, elle voit son mentor qui était non-violent, gravement blessé au cours d'une manifestation par une balle de LBD-40 tirée par les Bravels. Et donc il perd un œil, il devient hémiplégique, etc. Alors que lui, il prenait la lutte non violente, donc du coup la nana, ça va la radicaliser, mais carrément. Et elle rencontre, suite à diverses aventures, elle tombe sur Malik, ils se mettent ensemble et puis ils se rendent compte qu'ils ont tous les deux la même rage et la même haine contre le système qui a d'une part tué le père de l'un et blessé gravement le mentor de l'autre. Et là, ils vont recruter divers personnages et puis ils se mettent à renseigner les riches, quoi, en fait. À commencer par le directeur de l'usine qui a explosé, parce que ça va être lui le premier responsable. Et puis, ils vont continuer comme ça, puis ils vont avoir évidemment les flics au cul, les services secrets. Après, c'est la cavale, quoi. C'est le propre du thriller, quoi.
Alors, ça me permet de revenir il y a maintenant 2 ans, parce que tu as fait une erreur dans ce que tu as dit. Tu as travaillé avec d'autres institutions que les scientifiques sur le climat. En 2023, tu as intervenu à la CATO pour une conférence sur l'évolution du droit écologique aux côtés de 2 juristes de l'ADEME sur l'évolution de la loi verte au moment où elle était promulguée et la mise en cause des responsables d'écocide à la suite du procès de l'année. Est-ce que tu as l'impression qu'actuellement, les groupes et l'engagement politique écologique devient de plus en plus virulent ?
Carrément. C'est inévitable. D'abord, la répression du pouvoir face aux revendications écologiques est sans commune mesure avec la nature des revendications. Je veux dire, c'est comme s'ils avaient affaire à des terroristes armés islamistes ou je ne sais pas quoi. Alors que c'est juste des écolos qui défendent des bouts de forêt, hein, en général. Et donc la répression devient de plus en plus violente, donc la colère et la haine deviennent de plus en plus violentes aussi. On n'en est pas encore allé lui terminer, mais je pense que ça en prend bien le chemin. Hein, parce que, et je dis encore, suite à la répression démesurée du pouvoir pour qui on a l'impression que l'écologie, c'est l'ennemi ultime, quoi. L'écolo, c'est l'ennemi ultime. Voilà, il vaut mieux être un terroriste islamiste qu'un écologiste à la limite maintenant, quoi. C'est complètement absurde, c'est délirant. Et c'est pour ça que j'ai voulu écrire EcoWarrior, justement, parce que je trouve que on est dans une démesure générée par le pouvoir qui confine au délire, quoi, non seulement au délire, mais aussi au déni, au déni complet de la situation, du côté dramatique de la situation dans laquelle on est. Ces gens-là ne se rendent pas compte que leurs enfants vont avoir un avenir extrêmement difficile. Ils ne s'en rendent pas compte, ils s'en foutent. Ou alors ils ont déjà acheté leurs milliers d'hectares en Nouvelle-Zélande, en Patagonie, ou à Hawaï, ou je ne sais pas où, pour se mettre à l'abri. Enfin, on croit se mettre à l'abri, parce qu'ils ne sont pas à l'abri. La planète va se transformer, et ça va aussi concerner la Nouvelle-Zélande, la Patagonie et Hawaï. Voilà. Donc, voilà. On est dans une espèce on est dans un roman science-fiction, quoi, très dystopique.
Sur ces paroles très encourageantes, cette interview va toucher à sa fin. Merci Jean-Marc.
Merci.
Interview de Jean-Marc Ligny avec le Dead Can Dance, hein, c'est un peu évident. Il a écrit un roman qui s'appelle La mort peut danser.
Exactement.
Tout à fait inspiré par ce groupe et notamment la chanteuse Lisa Gerrard, Perséphone.
Un roman avec des allers-retours dans notre époque et au Moyen-Âge avec deux âmes qui se rencontrent.
Sébastien, il nous reste 30 secondes pour annoncer quelques trucs.
Ouais, bah moi je compte avoir prochainement Voyageurs solitaires de Lyon, qui était déjà intervenu, mais en différé donc pour les tambours de Chamanca.
Et là, pour vous parler,
voilà, d'un autre livre-jeu, Retour à Grisguild, qui fait suite au Talisman de la Mort, un défi fantastique fameux.
Eh ben, on se retrouve dans deux semaines.
Bye.
Salut. Bye.